Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Dans un contexte mondial où les enjeux climatiques, économiques et sociaux se croisent de manière inextricable, l'Afrique se positionne non seulement comme un terrain de défi, mais surtout comme un vivier de solutions. Alors que le continent se trouve à un carrefour décisif de son développement, la Semaine de l'Afrique des solutions et durabilité s'impose comme une plateforme incontournable pour repenser le futur africain et du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
L'Afrique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, ce avec des effets directs sur l'agriculture, la santé et les écosystèmes. Certaines zones comme le Sahel connaissent une incroyable avancée du désert causée par la désertification. La lutte contre le changement climatique nécessite donc des efforts coordonnés à l'échelle continentale et mondiale pour limiter les conséquences désastreuses. Pour en parler, mesdames et messieurs, votre émission Durabilité reçoit aujourd'hui M. Elhaj Mbaye, spécialiste en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie, ISO 5001, notamment sur les questions de changement climatique et développement durable. Bonjour M. Mbaye, merci de répondre à notre invitation.
Oui, bonjour M. Tonka, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité dans votre, en tout cas, prestigieuse émission. Et j'espère qu'on va faire une belle émission ensemble.
Et je précise également que vous êtes un homme à la plume inspirée, parce qu'également vous êtes auteur-écrivain. Alors, M. Mbaye, quelle est aujourd'hui la responsabilité des pays industrialisés dans la situation actuelle du climat?
Oui, intéressante question. Effectivement, cette histoire du climat, faut quand même bien préciser. L'Afrique contribue à très peu, à 3%, on dit, de responsabilité. Et sur ces 3%, faut encore relativiser, parce que quand on prend l'Afrique subsaharienne et qu'on exclut l'Afrique du Sud, on est à peu près à 1%. Donc le Maghreb prend 1%, l'Afrique du Sud prend 1%. Et 47 pays africains prennent tous réunis 1%. Donc vous imaginez, et pour ce qui est des pays industrialisés, alors figurez-vous, les trois pays qui occupent le trio de tête, à savoir les États-Unis, l'Inde et la Chine, ces trois pays ont la responsabilité de plus de 55% de cette pollution du monde. Donc typiquement, sur cette question de pollution, on a actuellement un trio de tête. Mais il ne faut pas oublier aussi, on a vraiment des pollueurs historiques qui étaient vraiment les États-Unis, toujours, et l'Europe, en fait. Maintenant, on a en fait des pays asiatiques comme la Chine, comme l'Inde, etc., qui sont dans le peloton de tête. Mais clairement, ils ont cette responsabilité, en tout cas, de la dégradation de ce climat.
Par rapport donc à la dégradation de ce climat, il faut également noter aujourd'hui le secteur économique. Et dans cette optique, quels secteurs économiques africains donc sont les plus menacés par le changement climatique et quelles sont les solutions africaines?
Oui, effectivement. Par rapport effectivement aux... Enfin, moi je les appelle menaces typiquement. Hein, je les appelle menaces. Disons, ils sont segmentés en fait au nombre de quatre que j'ai identifiés. Voilà, quatre menaces, mais qui vraiment s'imbriquent l'une sur l'autre, parce que on a la première menace qui est la menace existentielle, hein, donc là ça touche directement vraiment notre quotidien, parce que ça va impacter les activités de base comme l'agriculture, la pêche, hein, et les problèmes de ressources en eau. Et en fait typiquement c'est la menace en fait la plus dangereuse, parce que ça touche directement à notre existence. Et figurez-vous, si l'homme en fait n'a plus de quoi s'alimenter, là ça pose problème. Voilà. Et justement la deuxième menace qu'il faut identifier, c'est vraiment en fait celle qui est liée à l'économie, hein, parce qu'effectivement, les pays africains, la plupart sont dépendants de l'agriculture. Et typiquement, ça va affecter leur économie. Voilà. Il y a des pays africains qui risquent de dépendre de plus en plus des aides, comme on dit, extérieures. Et ça, c'est vraiment un danger pour ces pays africains. Pour toujours continuer sur cette même ligne, sur ce fil rouge, effectivement, quand des pays se retrouvent effectivement en difficulté, par rapport à leur activité de base, clairement, ça leur fait perdre, ça leur fait, en fait, ça leur met en situation de survie, j'allais dire. Là. Et je veux dire, la situation la plus dangereuse pour un être humain, c'est d'être dans une situation de survie. Parce que dans cette situation de survie, ça, disons, ça ouvre la porte vraiment à des problèmes sécuritaires, à des problèmes de comportement. Tous ces problèmes dont on parle, les problèmes de migration, voyez-vous, en fait, je ne sais pas si vous suivez l'actualité, certainement, ouais, en Afrique occidentale, avec les jeunes qui prennent le large, etc. Mais tout ça, en fait, à un moment donné, ça va encore exploser parce qu'on aura des migrants climatiques. Et les phénomènes de terrorisme, il ne faut pas les exclure parce que quand les gens vont perdre leurs repères, ben, tout est possible. Voilà.
Et par rapport même à cette exposition, il y a également l'annonce des États-Unis de se retirer donc de l'accord de Paris sur le climat. Quels seraient donc les impacts d'un éventuel retrait américain de l'accord de Paris et si Donald Trump, bien évidemment, donc était programmé pour revenir au pouvoir, ce qui est aujourd'hui le cas.
Ce qui est le cas, tout à fait, tout à fait. Mais Donald Trump, on le connaît comme étant un climato-sceptique, hein, donc quelqu'un qui ne croit pas effectivement au climat. La part des États-Unis dans l'accord de Paris, effectivement, n'est pas vraiment négligeable. Les États-Unis ont un poids, en tout cas, très lourd par rapport à l'accord de Paris, parce qu'il y avait des engagements, en tout cas, de baisse des émissions, déjà, hein. Et si effectivement Trump revient dessus, ça veut dire que lui balaye en touche, en tout cas, tout ce qui a été écrit sur les accords de Paris, ça c'est un. Et puis secondo, il y a effectivement, vous le suivez, ces aides, comme on dit, internationales, qui étaient accordées à certains pays africains, à certains pays pauvres, avec le programme USAID et qui est suspendu. Mais bon, tout compte fait, moi je suis pas fataliste. Je présume que en fait une arrivée comme celle de Trump aux États-Unis devrait être une opportunité pour l'Afrique de se prendre en charge, simplement. Il faudrait qu'effectivement l'Afrique puisse compter sur elle-même.
L'Afrique puisse compter sur elle-même. Et aujourd'hui également, par rapport aujourd'hui à cette actualité concernant le climat, pouvez-vous aussi y revenir très rapidement sur les principaux engagements pris lors de la COP29 pour lutter contre le changement climatique, notamment en Afrique?
Effectivement, la COP29, ça a été la 29e COP, ce qui est dommage. Bon, ça veut dire quoi? Ça fait 29 ans qu'on organise en fait des COP. On va aller vers la COP30. S'il n'y avait pas la COVID, on allait vers la COP31 ou 32. Et ce qui fait que, je ne sais pas si vous avez suivi les résolutions de la COP29, mais c'est une COP qui était plutôt axée sur les finances, dit-on. Voilà. Donc, à un moment donné, les pays les moins avancés ont bataillé ferme pour revaloriser, en tout cas, les pertes et dommages, semble-t-il. Mais, je veux dire, ils ont mis la barre, c'est au plus, je sais pas, plus de 1 000 milliards de dollars de dédommagement. Mais bon, finalement, on dit que ce qui a été accordé, entre guillemets, accordé, ça a été juste 300 milliards de dollars. Donc, du coup, moi, je me désole du fait qu'effectivement, quand on va en COP, la COP, théoriquement, c'est pour résoudre, en fait, c'est pour trouver des solutions par rapport au climat. Mais j'ai l'impression que l'urgence climatique, on l'a un peu cachée, reléguée au second plan, pour, en tout cas, mettre au devant cette histoire d'argent. Et malheureusement, c'est un mirage, en fait, qu'on est en train de faire vivre aux Africains. Voilà.
Un mirage qu'on est en train de faire vivre aux Africains dans cette même dynamique aujourd'hui, professeur. Quels sont les principaux défis et opportunités pour l'Afrique dans la transition écologique face à cette incertitude politique mondiale?
Effectivement, face à cette incertitude mondiale, vous l'avez bien, bien dit. Effectivement, l'Afrique n'a qu'une seule chose à faire, c'est vraiment de se prendre en charge elle-même. Je vais vous dire, figurez-vous, de toute façon, on a abordé effectivement les COP, mais clairement, ce qui est sûr et certain, tous les pays qui vont en COP, tous les continents qui vont en COP défendent leurs intérêts. Et sur cette défense d'intérêts, chaque pays essaie de tirer la couverture de son côté. C'est aussi simple. Et c'est à l'Afrique, justement, de très bien comprendre les véritables enjeux pour se positionner en tout cas en force, parce que l'Afrique compte 54 pays. Donc 54 pays, figurez-vous, qui se donnent la main, qui parlent d'une seule voix, ça peut peser sur la balance, en fait, en termes de négociation. Mais bon, si l'Afrique y va en ordre dispersé, mais croyez-le, l'Afrique ne gagnera absolument rien dans ces instances. Maintenant, il faudrait qu'effectivement l'Afrique se prépare mieux et prenne conscience des véritables enjeux autour de cette affaire du climat pour vraiment défendre ses intérêts. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a cette notion de perte et préjudice qui est mise au devant. Mais effectivement, il y a cette question d'adaptation qu'il faudrait mettre sur, effectivement, qu'il faudrait insister. Et moi, en tant qu'Africain, le premier combat que je mènerai, effectivement, c'est cette question d'adaptation. Et je vous dis une chose, M. Tonkara.
Allez.
Figurez-vous la France, je peux le prendre comme pays, en tout cas, comme exemple. La France, tenez-vous bien, moi j'ai visité leur plan, leur PNA. Le PNA, c'est le plan national d'adaptation. Et ce pays se prépare, non pas l'accord de Paris, vous en parlez tantôt, l'accord de Paris, on parle de 1,5 degré à ne pas dépasser, c'est ce qu'on disait. Et tout au plus 2 degrés, on dit. Mais l'adaptation, le plan national d'adaptation de la France se prépare pour une augmentation, tenez-vous bien, de 4 degrés. Je peux vous assurer que ces gens ont parfaitement compris, en tout cas, là où le climat est en train de tendre. Si nous, Africains, on veut s'adapter par rapport à, disons, une température qui a été définie 1,5, mais clairement, d'ici 2100, ce qui va se passer, si on construit des digues pour se protéger à 1,5, si la température dépasse de 2, 3, les 4 degrés, ben ces protections ne vont absolument servir à rien. C'est un exemple. Donc, il vous faudrait vraiment un plan d'adaptation africain.
Voilà. Un plan d'adaptation africain. Et rapidement aussi, donc aujourd'hui, comme je l'ai annoncé plus tôt, vous êtes écrivain et votre livre sur le climat a remporté le dernier Mila d'Abidjan. Pensez-vous donc que la littérature peut réellement influencer les mentalités africaines face à une crise aussi urgente qu'est donc cette crise par rapport au climat?
Oui, effectivement, vous faites bien de mentionner le Mila que j'ai remporté, parce qu'effectivement, j'ai écrit un livre sur le climat. Mmh. Et en l'écrivant, moi, je ne voyais pas cette résonance en tant que telle. Mais bon, je veux dire, avec les éléments du Mila, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Ce que je peux vous dire par rapport à cette, influence sur les mentalités, c'est que il y a très peu d'Africains qui écrivent dans ce domaine. Ça, c'est, moi, j'ai fait un peu de revue littéraire. Et quand je dis très peu d'Africains, en particulier les Africains francophones. Les anglophones, il y a quelques-uns qui écrivent. Et ce qu'il faudrait, c'est vraiment en fait que l'Afrique prenne conscience, en tout cas, des véritables enjeux, des menaces, en tout cas, qui planent sur ce continent. Et je pense que la littérature, c'est un vecteur. Hein. C'est vraiment un vecteur qui permet de sensibiliser des communautés, des populations, en tout cas des peuples. Il faudrait qu'effectivement, chacun en ce qui le concerne, moi j'ai en tout cas joué ma partition. Et quand je dis joué ma partition, j'ai écrit un livre.
Tout à fait.
Donc sur ce domaine qui a été primé. Mm-hmm. Ben, il faudrait que vraiment les Africains, que d'autres, j'allais dire, fassent comme, un peu comme moi. Donc que chacun joue sa partition.
Voilà. Que chacun joue sa partition. Et c'est dans cette partition que l'Afrique pourra faire face aux défis climatiques et également environnementaux. Merci encore à vous, Monsieur Elhadj Mbaye. Je rappelle donc que vous êtes spécialiste en économie d'énergie, en énergie renouvelable, système de management d'énergie ISO 5001, notamment aussi sur les questions de changement climatique et développement durable, mais aussi un fin écrivain qui a donc prêté sa plume au développement de l'Afrique. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation.
C'est moi qui vous remercie, M. Touka.
Et merci également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance renouvelée. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Au plaisir.